Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie.
Merci en tout cas pour l'opportunité que vous nous donnez un peu de revenir sur un passé, de pouvoir en discuter. Je me définis comme une enseignante chercheuse. J'ai commencé ma carrière à l'université depuis septembre 1973. Et j'en suis sortie, bien sûr, après un certain nombre de missions. J'en suis sortie en 2022. J'ai pris ma retraite. Mais en ce moment, je suis plutôt une retraitée active. Bon, voilà. Puisque je continue, en fait, à être membre du comité de rédaction, notamment de la revue Une Saignette. Donc ça fait énormément de...
Une Saignette qui sort à l'université d'Oran.
Non, qui est la revue du Centre National de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle. En fait, le CRASC, et puis en fait, ma carrière a été divisée, disons, globalement en deux. Une dominante d'enseignement jusqu'en 1995, une dominante en tant qu'enseignante. Et à partir de 1995, en fait, je suis devenue chercheur permanent à temps plein au niveau de ce centre de recherche. Voilà. Donc, j'ai la moitié du temps vraiment d'abord en tant qu'enseignante, même si, disons, on faisait de la recherche. Mais dans la deuxième étape, j'étais chercheur. Et puis, bon, évidemment, j'ai été longtemps gestionnaire. J'ai monté... avec d'autres collègues, bien sûr, ce centre national de recherche que j'ai dirigé de 1992, depuis sa création, jusqu'en 2014, donc à ma nomination en tant que ministre de l'Éducation nationale.
D'accord. On va revenir sur toutes ces étapes et sur un plan plus personnel. Vous vous êtes présentée en tant que chercheur, enseignante, à un certain moment responsable politique hein, au sein du gouvernement. On va revenir à tout ça. En tant que personne, vous êtes qui? Nouria, c'est qui?
Nouria, c'est la fille de Djilali Benrabouret, dont l'oncle, enfin, le nom est connu par le biais de son oncle, qui était le fondateur de la mosquée de Paris, qui est Sirdour Mandret. Et puis, j'ai été élevé dans un milieu un peu, disons, conservateur. J'étais promis, quand on est arrivé en terminale, en fait, à rester à la maison et me marier, comme tout le monde. Les négociations permanentes dans lesquelles nous, les femmes, nous sommes et dans lesquelles je suis complètement dedans, c'était de pouvoir, évidemment, notamment avec le père, de continuer les études dans l'enseignement supérieur. Et c'est là où j'ai découvert un autre monde. Pour moi, l'université, ça a été une vraie découverte, puisque je suis rentrée donc dans les années 70, et puis dès qu'on est rentrée, en fait... J'ai été saisie, comme peut-être beaucoup de jeunes à l'époque, par l'activité d'une organisation étudiantine qui était l'UNEA, l'Union nationale des étudiants algériens. Et très vite, j'ai été embarquée là-dedans, alors qu'avant, j'étais, le lycée, le collège, la maison, sans grand bouleversement, quoi. J'ai eu une enfance et une jeunesse tout à fait... ordinaire, assez platitude, mais dans lequel j'étais, disons, heureuse. Mais la découverte, ça a été à l'université, c'est la découverte de la politique, d'abord, et la découverte de la revendication estudiantine et des luttes syndicales.
Ouais. Voilà. On va revenir à ça aussi. Moi, je vais retourner au début. Vous dites, c'est une famille... D'abord, une petite question qui... Vous êtes né à Oujda.
Oui.
C'est quoi cette histoire?
Écoutez, Oujda Tlemcen, en réalité, presque pas de frontières. Hein. Il y avait beaucoup de circulation. Et ma mère elle-même est née là-bas. C'est pour vous dire que c'est une immigration ancienne. Et Oujda était pratiquement algérienne, vraiment. Oui. Là, il y avait une très 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 forte communauté. Et puis bon, il faut rajouter évidemment que durant la période coloniale, les Algériens étaient considérés, comme étant pratiquement des seconds français. Donc ils occupaient des postes de responsabilité dans l'administration marocaine. Alors donc, mon père était chef de service à Oujda, du service des eaux, voilà.
À Oujda. Dans l'administration ?
Dans l'administration marocaine, oui.
Juste, c'est une curiosité personnelle, oui. Et chef de service des eaux, et il a...
Service des eaux.
Il était, oui.
Algérien.
Il était lui-même ingénieur dans l'eau, enfin il avait non, une connaissance
particulière. Non, pas du tout. Alors lui, c'est le vrai fonctionnaire.
D'accord.
Il s'y connaît dans l'administration. C'est quelqu'un qui a fait une carrière dans l'administration très jeune,
oui.
Très jeune. Et puis, voilà, on est rentré à l'indépendance. Voilà, on est rentré en 63. Et puis, on a d'abord été à Périgueux, hein, Mohamedia, aujourd'hui. Ouais. Puis ensuite, on est venu ici à Oran.
Oui, mais vous étiez à Oujda, vous étiez, toute la famille, je veux dire, algérien et algérienne.
Ah oui. Algérien.
Pas marocain.
Non, pas du tout. Algérien et qui participions d'une... c'était la base arrière, en fait,
ouais.
De tous les... de tous nos soldats,
oui.
Qui venaient à Oujda pour se reposer, se requinquer, se faire soigner. Donc, d'accord. C'était un peu la base arrière. Et dans la maison, on avait tout le temps des jounouds, donc, de passage. Et ça, c'était... totalement courant à Oujda, dans pratiquement toutes les familles. Alors, on jouait le rôle non simplement du point de vue matériel et organisationnel, mais également financier. Là aussi, comme tous les Algériens qui étaient installés. Et il y avait évidemment une osmose, un soutien avec nos amis marocains.
Ah, c'est quoi comme conditions matérielles dans lesquelles vous avez grandi ?
Ah, disons, comparativement, on peut dire que c'est moyen.
Moyen.
Voilà, disons, allez, couche petite bourgeoise.
Nouria, la petite gamine, on la préparait à devenir, à se marier et à fonder une famille pour reproduire le même système.
Totalement, et puis on a fait également l'école coranique, donc avant d'aller à l'école, on passait, à Oujda, j'ai fait l'école française à Oujda. Et donc, avant d'y aller, mon père nous a inscrits donc à l'école coranique. Et on allait avant d'aller au primaire. C'est-à-dire, on allait à 8h du matin. À 7h, on était déjà en train d'apprendre le Coran. Voilà. Ça aussi, c'était très courant.
Il y avait des livres à la maison ?
Alors, il y avait surtout beaucoup d'instruments de musique.
Oui.
Mon père, c'est un fan de la musique andalouse. Il dirigeait à Oujda un orchestre.
D'accord.
Et quand on est rentré ici, en 68, il a participé au premier festival de musique andalouse. Donc, c'est quelqu'un qui, dans la tradition, l'ancrage dans notre culture était très, très forte. Et puis, la presse, c'était tout le temps. Donc, la lecture, c'était, en fait, à travers la presse. Donc, c'est quelqu'un qui se tenait... informé constamment, qui était en lien avec les milieux, intellectuels, si on dit, avec les milieux des avocats, qu'on avait aussi dans la famille. Bien sûr.
Le premier livre que vous avez eu, vous vous rappelez à quel âge vous l'avez eu ?
Oh, je pense que c'est le collège.
C'est le collège ?
Collège. Non, pas avant. Avant, on était plus dans l'occupation de l'espace rue. Là-dessus, on était avec les voisins. On jouait énormément. Mais aussi, dans la famille, il y avait énormément de monde. Des maisons qui recevaient énormément. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'espace particulier, en fait, il faut le dire.
Ouais.
Pour les enfants, il n'y a pas d'espace particulier. On était tous ensemble. On était... Elle est une famille de 6 enfants.
Ouais.
Et mon père il avait également, pratiquement adopté deux de ses neveux, une nièce et un neveu. Donc, il avait son père aussi, qui est mon grand-père, qui vivait avec nous. Donc, c'était une maison où il y avait énormément de monde, H24. Alors, pas de place pour les enfants. Alors, pas de place, mais en même temps, la pression était moindre. Disons, tout ce qui relevait du contrôle. Alors, ce qui fait qu'on passait souvent notre temps à l'extérieur. On faisait beaucoup de vélo, puisqu'on arrivait à louer. C'était Barbadoro. Donc, on louait des vélos la journée. Et puis, quand on n'allait pas à l'école, donc on était...
Et c'était normal qu'une gamine sorte jouer dehors sans contrôle immédiat?
Écoutez, parce que y avait un milieu de confiance. Il y avait un milieu de confiance sur place. Et puis, en fait, on fréquentait... non seulement on était... On fréquentait plus la famille, bien sûr. On était plus entre cousins-cousines. Mais également des Algériens qui étaient installés.
D'accord. Et la musique, vous en avez gardé quelque chose?
Bah oui, le sens, l'oreille. L'oreille musicale. J'ai peut-être un peu regretté, à la différence de ma sœur qui, elle, a fait du solfège et qui s'était lancée dans la musique. J'étais, disons, assez contestataire. Voilà.
Je ne peux pas imaginer qu'à cet âge-là, vous avez déjà des... Vous commencez déjà un peu féministe. Un peu oui, je veux dire, à ce moment-là, vous commencez un peu à vous révolter aussi contre ce système.
J'étais en permanence dans la révolte, en fait, très jeune.
Par rapport à cette question-là, votre position de future femme, jeune gamine.
Oui. Et aussi par rapport au traitement inégal qui était fait à l'intérieur de la famille, entre les uns et les autres.
Bon, voilà. Comme quoi, par exemple?
Comme quoi, je veux dire... Il y a, à partir du moment où vous rentrez complètement dans le moule, vous êtes mis vraiment complètement à nu. On vous fait asseoir à côté des invités parce que vous parlez au moment où il faut, vous vous taisez au moment où il faut. Disons que ce n'était pas tout à fait mon cas. Je mettais souvent les pieds dans le plat. Donc il y avait des craintes, très jeune, je dis. Et voilà. Non pas que je n'adhérais pas, mais ça faisait partie un peu de ma personnalité. Et il me prenait aussi, disons entre guillemets, en tant que clown aussi. Il savait que j'allais rentrer dedans, que je disais toujours des choses qu'il ne fallait pas dire. Donc, ce qui fait que j'étais souvent dans une sorte de centralité, pas normative. Oui. Pas normative. Et y compris du point de vue scolaire, ceci étant dit. Donc, jamais été très brillante, toujours moyenne, jusqu'au lycée, en fait, où je me suis rattrapée. Mais quand vous êtes dans une famille nombreuse et que les préoccupations d'ordre domestique sont dominantes, personne, encore une fois, personne ne vous contrôle. Vous allez à la colle, vous revenez. Et en fait, le déclic, ça a été quand je suis arrivée en sixième. Je devais redoubler ma sixième.
Ouais.
Et mon père a refusé.
Vous avez quel âge à peu près?
J'avais 11 ans.
D'accord.
Donc mon père s'est déplacé au collège et puis là, à l'école primaire, en me disant, je veux qu'elle passe sa sixième. Je veux qu'elle le passe. Donc, la directrice, puis en même temps l'enseignante, a essayé de convaincre mon père que finalement, je ferais de meilleurs progrès si jamais je redoublais ma classe. Mon père a refusé le redoublement et il m'a inscrit en tant que candidate libre. T'avais 11 ans. Eh bien, je vais vous dire, cette confiance qui a été placée m'a tellement surprise que j'ai été dans une telle aisance parce que j'ai passé mon examen. Que je l'ai eu immédiatement. Je suis passée au collège. J'en ai même gardé une certaine culpabilité par rapport à d'autres cousines qui, elles, étaient brillantes et qui n'avaient pas eu leur examen de sixième. Que moi, je l'avais eu, j'ai l'impression d'avoir pris leur place. Mais c'est cette confiance qui, je pense, qui a quand même aussi forgé aussi ma personnalité. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes pas bon, selon les normes, que finalement vous n'êtes pas bon tout le temps. Alors, et ça, le, je veux dire, mon père a encouragé les études à ce niveau-là. Hein. Et je crois qu'il commençait à avoir des craintes dès qu'on est arrivé en terminale, comme tout le monde. Bon, voilà, commence à grandir. Moi, il se dit, vaut mieux les caser. On est plus rassuré. Voilà, plus rassuré. Mais il a quand même. C'est quelqu'un, donc, en fait, la problématique de la négociation, en fait, très tôt installée dans la famille, et ce que j'ai beaucoup admiré, c'est quelqu'un qui peut reculer. Ça ne correspond pas à ses convictions, mais il peut reculer. Et ça, l'exemple le plus frappant, ça a été quand je suis rentrée à l'université, donc je ne connaissais pas d'autres personnes que ma famille et quelques amis, mais dont les parents connaissaient les parents, bien sûr, parce qu'il fallait... Eh bien, écoutez, il y a eu le volontariat, tout le monde, il y a eu la révolution agraire, et puis il y a eu un mouvement de volontariat extraordinaire. Alors, dans le premier volontariat qui était organisé, le principe était que les étudiants devaient aller dans une autre région. On ne fait pas le volontariat dans sa région. Ouais. Ben, écoutez, je crois que j'ai été le groupe d'exception, double exceptionnalité, un groupe uniquement constitué de filles, c'était la condition de mon père. Uniquement des filles, et deux, il faut que je puisse venir à n'importe quel moment rendre visite. Donc j'étais la seule à être à Témouchette, donc à 70 km d'Oran, et avoir, je crois, l'unique groupe de filles qui avait fait le volontariat. Parce que c'était les groupes mixtes, le principe, c'était la mixité. Ouais. Vraiment, c'est... Alors là, bon, écoutez, ça vous ouvre des perspectives, c'est extraordinaire. Bon, on a fait les campagnes.
C'était un moment important, ça, la réforme agraire, oui. Mais vous étiez combien de frères et sœurs à la maison ?
On était trois sœurs et trois frères.
Vous êtes rentré de Oujda quand en Algérie ?
L'indépendance, disons que on avait vu, on n'est pas rentré en 62, mais parce que bon, il y avait une forte pression aussi de l'administration pour que les Algériens restent. Mm-hmm. Mais il y en a d'autres qui ont été carrément mis à la porte. Et ça, bon, mon père l'a pas supporté. Bien qu'il y avait eu vraiment une forte attention pour qu'il puisse continuer à servir l'administration. Donc on est rentré. Bon, là, ça a été la décision. Il a vu des oncles à moi qui ont été mnéfiyine, comme on dit. Et là, on a tout de suite, avec ramé bagages, on est rentré. Puis il y a eu évidemment la question de la guerre de 63.
Oui.
Bon, voilà, ça a eu une incidence et ça commençait à détériorer les rapports, alors qu'on était franchement comme des poissons dans l'eau. Pas la différence quand on partait à Tlemcen, quand on venait à Oujda. Il y avait une proximité qui était extrêmement importante, mais qui commençait à être dévoyée, bon, justement à partir de 63, donc nous on est rentrés.
D'accord. Juste un dernier point sur la famille, mais qui m'est important, moi. Je peux imaginer que la maman était à la maison comme ce qui se faisait généralement à cette époque-là.
C'était le cas. Très dévoué.
Et quand vous étiez dans ce rapport de négociation permanent avec votre papa, sa position, elle était plutôt un soutien pour vous, elle hésitait, elle était dans quelle position ?
Elle était en soutien, mais pas frontal. Elle jouait des normes, des valeurs. Elle savait aussi se taire quand il fallait. Ouais. Alors, franchement, c'est quelque chose... Il y a un soutien affectif qui est fondamental. Moi, je crois que ce qui vous permet d'avoir un peu de construire votre personnalité, c'est cette dimension, bien sûr. Dimension affective, une dimension de confiance dans laquelle parfois on est piégé, hein, dans la relation de confiance, puisque on arrive difficilement à sortir de la route qui nous est tracée. Mais c'est une mère qui est extrêmement discrète, hyper disponible, au service de tout le monde. Mmh. Et bon, je veux dire, au service, bon, bien sûr, de sa famille, mais beaucoup, beaucoup au service de l'ensemble de la famille. Alors donc, et qui est caractérisé par une générosité fondamentale. Il suffit que vous lui disiez, bon, voilà, on a telle famille, ils n'ont rien. Quand on était étudiant, bon, il y a beaucoup de nos amis qui ont été mis en prison, notamment les gens, les étudiants de Nouméa, beaucoup. Et ben, alors, on prenait de la maison, les couffins, pour aller, pour les emmener. Alors, des habits pour leurs enfants, parce qu'ils étaient dans des situations de précarité. Mmh. Alors, elle est d'une extrême sensibilité par rapport à ça. Et là, bon, franchement, c'est extrêmement confortable, voilà. Je veux dire.
Oui. Confortable. Et donc, pour elle, c'était un soutien souvent discret, mmh. mais elle savait, comme toutes les mamans, savent faire en général, oui. sans vouloir être déterministe, je veux dire. Oui, c'est ce genre de jeu d'équilibre dans la famille.
Hein? C'est fondamental.
Vous avez reproduit un peu ça?
Je crois, oui.
Oui?
Je crois, oui. Je suis... maintenant que bon, mon père est décédé, j'ai ma mère qui est à la maison, mais elle est très autonome. Oui. Et c'est nous qui lui imposons le fait de venir. Mais, donc, c'est ma maison aujourd'hui ici. C'est devenu la maison familiale avec ouais. un grand F. Bon, mes nièces, mes neveux, bon, franchement, les vendredis, c'est toujours, on est à 20, 30, sans problème. Et ça crée, parce que si on ne le fait pas, je veux dire, à l'intérieur de la famille, bon, on finit par ne plus se connaître. Bon, c'est vrai qu'il y a des processus d'individuation, mais si, de manière volontaire, on ne crée pas les liens. Donc il est quand même un minimum de sacrifice qu'il fasse. Mmh. Pas celui qui reçoit, il est tout le temps au charbon. Mais les souvenirs qu'ils en gardent, eh ben, c'est ça qui vous fait plaisir. Parce que mmh. ils ont des photos, ils se remémorent comment, en fait, ils jouaient dans le jardin. Même quand je n'étais pas ici, on habitait un petit appart, ben, ça ne changeait pas, hein. Je veux dire, qui goûte que l'eau s'affile galpe, c'est ça qui est le vrai, en fait.
Oui. Mm. Pour emprunter ou faire référence à quelqu'un, madame, à quel moment vous êtes devenue femme?
Qu'est-ce qu'être femme?
Je peux vous renvoyer à la question?
Alors, je considère que au qualificatif de femme, on rajoute celui de la maturité, ben c'est quand même assez tardif. C'est assez tardif parce que quand vous êtes constamment au service des autres, je veux dire qu'il y a presque une négation de soi. On y trouve du plaisir, bien sûr, hein, mais, je veux dire, vous en payez en contrepartie. Ah oui, le prix, l'effort. Parce que vous, on dirais-je, il faut être, peut-être pour être femme avec un F, il faut être égoïste. Et je crois que le fait de se sentir en tant que tel, c'est d'abord dans le cadre du mouvement associatif. Le mouvement associatif m'a beaucoup appris, les associations de femmes. On a monté ici à Oran une association. C'est le travail avec les collègues qui sont devenus des amis. C'est d'avoir des projets ensemble, de travailler dans des projets de recherche ensemble.
Vous parlez de collègues femmes.
De collègues femmes, oui. Mm-hmm. De collègues femmes. Mm-hmm. Et c'est là où, bon, je veux dire, on a été appelés... très souvent, intervenir dans les conflits. Bon, voilà. C'est-à-dire, ce que vous avez appris par osmose à l'intérieur de la famille, vous le formalisez à travers les lectures, bien sûr. Mm-hmm. Ça aide énormément. Mm-hmm. Aide énormément. Je crois que c'est les lectures qui nous font prendre la distance avec nous-mêmes et la distance avec notre posture. Sinon, on est tout le temps en situation, je veux dire, de victime. Alors, pour passer de victime à, au statut autonome d'une femme affranchie, ça passe forcément par les lectures.
C'était quoi comme association, la première que vous avez fondée avec vous ?
L'association féminine pour l'épanouissement de la personne et l'exercice de la citoyenneté. Voilà. D'accord. C'est la FEPEC.
Et c'était quand, à peu près, vous vous rappelez de la date ?
Ah oui, c'était à l'ouverture, c'est en 89. C'est après la révolte 88, où finalement l'Algérie a connu un dynamisme extraordinaire, où tout le monde y a cru. Franchement, je crois qu'il y avait un nombre d'associations incalculables. Et puis, mais malheureusement, disons, les choses sont très vite, se sont assombries avec le terrorisme. Mais vraiment une ouverture, et puis on a appris aussi à dialoguer avec des personnes qui n'étaient pas d'accord avec vous, et puis bon, il y a eu des rencontres nationales auxquelles notre association a participé, mais vraiment une association extrêmement disparate en termes de parcours et d'itinéraire des unes et des autres.
Voilà. D'accord. Votre bac, vous l'avez eu en quelle année ?
70. Eh bien, un bac philo.
Un
bac philo, oui.
Alors, du coup, vous me donnez une question qui va... vous êtes la sixième ou la septième avec qui on fait une interview en Algérie, je veux dire. Pratiquement tout le monde a passé un bac philo. C'est un hasard du choix que j'ai fait ou il y a quelque chose qu'à l'époque qui expliquait que la philo était attirante.
Bon, d'abord, pour certains, c'était une orientation, disons, parce qu'on n'était pas bon en mathématiques. Donc, quand on n'est pas bon en mathématiques, donc on vous voit là-dedans. Mais quand même, à notre époque, donc dans les années 70... Même quand vous étiez avec un bac philo et que vous aviez envie de faire médecine en rentrant à l'université, il y avait ce qu'on appelle un concours d'entrée ou un examen que les titulaires du bac philo pouvaient passer. Donc en fait, on a choisi, en toute confiance, parce qu'on savait que toutes les portes étaient ouvertes à l'université. Et même mieux, pour nous qui nous sommes inscrits volontairement donc en sociologie, on considérait que ceux qui étaient dans la fac d'en face, c'était les médecins, c'était pas les meilleurs, quoi. C'était ceux qui avaient une excellente mémoire, certes, mais nous qui étions... quand on est rentré en première année de fac, c'est la propédeutique, et dans la propédeutique, ils avaient le choix entre la psycho, la philo, la socio. Bon, moi j'avais pris la psycho.
C'est en quelle année vous vous inscrivez à l'université ?
C'était en 70.
70. Vous entrez à l'université, vous commencez votre cursus
en
sociologie.
Oui. Alors je ne commence pas en sociologie, on a commencé en psycho, et puis on est arrivé à la période où finalement. Il y avait beaucoup de bouleversements. Vous savez, la réforme de l'enseignement supérieur est intervenue en 71 avec beaucoup de principes, dont celui de l'algérianisation. Alors, ce qui fait qu'il y avait des recrutements importants. Et nous, on avait un prof qui s'est retrouvé dans l'obligation d'avoir plein d'étudiants et dans plusieurs spécialités, sans l'occurrence Djerriouat Qadallah Yerhamou, et qui était un excellent pédagogue, mais en psycho, il nous a totalement malmenés. Donc les premiers cours auxquels on a assisté, on s'est dit c'est pas possible que ce soit l'université comme ça, et on a fui la psycho. On était moi et deux autres amis, et on est parti en philo. On ouvre la porte, on voit Djerriouat Yerhamou, et puis on referme. Il ressort en courant. C'était un autre personnage. Lui, sa formation, c'est la formation de philosophe. Il était brillant en tant que didacticien. Vraiment, il nous a fait pas simplement aimer, Mais vous savez, il y a des cours d'Ibn Khaldoun qui sont encore, je crois, qui sont gravés dans ma tête, et je vois encore le tableau, la craie, comment il a réussi finalement, pas simplement à nous faire aimer un auteur, mais à nous le faire comprendre. Et bon, voilà. Et puis après ça, on a fait des, comme à l'époque c'était le système des certificats. C'était le système des certificats. On était avant la réforme. Donc, bon, voilà, j'ai mis le certificat de démographie, de sociologie, voilà.
Ce côté contestataire, un peu, des débuts, ça s'est développé, ça a pris un contenu politique à un certain moment, à partir de quand vous vous êtes senti politisé ?
À l'université. C'était une véritable école de formation. C'était une école de formation, aussi bien l'organisation qui était à l'époque l'UNEA, et pourtant je les ai fréquentés très peu, puisque l'UNEA a été dissoute en janvier 71, et elle avait contesté le coup d'État de 65, voilà. Ouais. Mais qui avait une emprise à l'université qui était extraordinaire. Parce que, bon, c'est en assistant à leurs réunions qu'on avait droit à savoir les analyses politiques, qu'est-ce qui se passait en Chili. Donc franchement, le rapport au monde était médiatisé par les militants de l'UNEA et qui organisaient des réunions. Alors, bon, ben, à l'époque, on avait pris plein de positions, notamment sur le Chili, dont j'ai une grande en souvenir, parce que ça nous avait marqué. Et ensuite ça a été pris en charge donc assez rapidement par l'organisation des volontariats. Mais juste avant, évidemment, c'est ça qui m'a permis d'être délégué de fac, délégué. Mmh. Et puis bon, là-dessus, vous apprenez à être avec d'autres. Et c'est le conflit, quoi, la gestion du conflit.
Comment se passaient les négociations, enfin, oui, les relations dans le sens politique, je ne parle pas des choses personnelles, les relations politiques entre les militantes et les militants. Il y avait une dimension femme aussi dans votre propre combat, non ?
Absolument pas, parce qu'en fait, on était très peu nombreuses, donc on était très coucounées. On était très très protégés, on était même surprotégés par nos camarades.
Par les camarades hommes.
Hommes, oui. 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 Très protégés. C'est pour ça d'ailleurs que, bon, au sein de la famille, il n'y a pas eu trop d'opposition. Il y avait une éthique et une morale. Ouais. Et pour nous qui venons d'un milieu malgré tout conservateur et fermé, ouais, ça a été une découverte.
Cette protection est, pardon, oui, mais pas, plutôt de nature paternaliste, ou est-ce que c'était vraiment un truc, une camaraderie politique et politisée, et que les relations étaient assez horizontales finalement?
C'était celle-ci, camaraderie politique.
Oui.
Oui.
Le fait que vous, au-delà des histoires privées, que vous soyez femme ou garçon, c'était à peu près la même chose.
Alors bon, ils avaient des longueurs d'avance, bien sûr, parce que pour lui sortir, que finalement, toutes les responsabilités, c'était eux. Donc on était vraiment en posture de découverte. Donc c'est, je pense que la problématique de l'égalité, elle nous est venue après. Mais là, on était en apprentissage, on était en immersion.
Oui,
voilà.
D'accord.
Donc...
Et quand vous dites c'est venu après, c'était à partir de quand ?
Ben, ça a commencé quand on a terminé l'université, quand on a commencé à être enseignante et quand on voyait en fait les parcours.
D'accord.
Les parcours plus longs chez nous, parce que bon, voilà, on était obligés de faire les liens entre la maison, le foyer et l'extérieur. Et que bon, comme tout le monde, on a eu des enfants. Et quand vous discutez, on vous dit, bon, bah, écoutez, bah, si tu n'arrives pas à soutenir. Parce que bon, finalement, on ne passe de grade en grade que si on soutient des diplômes. Donc, ça a été le diplôme d'études approfondies, ensuite le troisième cycle, ensuite la thèse d'État. Donc, vraiment, c'est le parcours du combattant. Pour les femmes, c'est le parcours du combattant. Parcours du combattant, parce que, en fait, disons, à notre époque, franchement, il n'y avait pas toutes les commodités qu'aujourd'hui, on est en train de voir. Ma fille, elle a encore, elle m'a dit dans son odorat, on avait des bassines en fer, on faisait bouillir de l'eau avec du savon de Marseille qu'on râpait, et on mettait, ce qu'on appelait le Streit, t'as les bébés.
Oui.
On faisait ça tous les soirs. Bon, le yaourt, on le fabriquait nous-mêmes. Vraiment, on n'avait pas d'eau. Donc, on surveillait l'eau quand il arrivait à 3 heures du matin. On remplissait les baignoires. Donc, la vie domestique était extrêmement, extrêmement pénible. Donc, c'est le fait d'être en lien avec d'autres femmes qui subissaient ou qui vivaient en tout cas la même situation, qui a fait un peu notre force. Donc on a trouvé dans ces liens ce qui pouvait, ce qui pouvait nous épanouir.
Oui.
Voilà. Donc on organisait, on habitait un immeuble dans lequel beaucoup d'universitaires habitaient, on était tous à peu près dans la même tranche d'âge, on avait des enfants en même temps. Donc on s'organisait pour garder nos enfants ensemble. Il y en a une qui sortait, l'autre qui les reprenait. Alors les week-ends, on remplissait nos voitures, on prenait nos enfants, soit pour les amener au cinéma. Nous-mêmes, on organisait des rencontres, débats, pour dire les choses. C'est-à-dire, quand on est en colère près de ses enfants, quelle attitude avoir ? Donc, on était énormément dans le partage d'expériences de vie ou de tranches de vie. Et ça nous a aidés à nous former dans la prise de parole. Parce que là où vous êtes toujours en admiration. Il en sait toujours plus que vous. Donc, vous êtes toujours en position d'apprentissage, toujours en position d'élève. Mais alors là, quand on est dans un entre-soi, il y a une plus grande égalité. Il n'y a pas celui qui sait mieux qu'une autre. Bon, les femmes, on avait tous la même expérience. Et chacune avait une démarche, disons, originale dans sa façon d'être, non seulement à soi, à ses enfants, et aussi à son époux. Et on était très, très, très à l'écoute. Et ça a pu être peut-être les premiers éléments de construction d'un réseau, sur cette base-là.
Et dans cette vie au quotidien que vous décrivez, les hommes n'étaient pas là ? Je ne parle pas au niveau personnel. Dans ce milieu-là, les hommes étaient où ? Ils étaient impliqués ? Ils étaient dehors, café, pour la télé ?
Alors bon, ils étaient soit chez eux, soit dehors. Disons qu'on privilégiait beaucoup les rencontres entre femmes.
Oui.
D'abord, c'était toléré. Bien sûr, je crois que ça pose le moins de problèmes. Et puis, je vous donne un exemple, dans l'immeuble où on habitait, qui était la Cité Radieuse, les ramadans, on descendait nos tables et on prenait le café, donc on était entre soi, les hommes ici d'un côté en train de jouer aux cartes, et nous, on discutait, et nos enfants jouaient à côté de nous. Donc on essayait de trouver les meilleures formes qui ne vont pas... qui font avec, évidemment, le système de valeurs dominant, mais en même temps se trouver une place. Donc il y avait toujours quelque chose à faire, et pour ne pas, comme certains le vivaient, tout le temps en train de victime, tout le temps en train de se plaindre, on n'était pas du tout dans la complainte, pas du tout. On était toujours dans la prise en charge, quand par exemple les légumes étaient trop chers, ben on allait aux halles, on se mettait à 3 ou 4 femmes, on achetait des cajots de patates, on venait à la maison, on se les répartissait. Donc on était, toutes les femmes bon, que je fréquentais étaient des femmes très actives, très indépendantes, je veux dire, sur le plan... sur le plan des activités qu'elle devait mener, même si globalement on était tous évidemment dans la reproduction d'un modèle, ça va de soi.
J'ai lu un papier qui disait qu'on vous appelait souvent la dame de fer. J'aime pas la comparaison parce que ça me rappelle quelqu'un, mais dans le contenu, dans ce qu'il y a derrière cette formule, cette dame de fer est née à ce moment-là.
Oui, ça, elle s'est forgée, hein, c'est forgée. Puis dans la dame de fer, en fait, moi je crois que c'est peut-être pour ne pas utiliser un terme qui sied mieux, qui est le courage.
Oui.
Voilà. C'est la lâcheté qui vous fait, en fait, mettre en œuvre des choses que peut-être vous n'avez pas envie de faire. Ça ne me correspond pas. Mais avoir le courage, toujours dans... comment dirais-je, dans une éthique de la négociation. C'est, voilà. Mais avoir des idées et avoir surtout, comment dirais-je, oui, allez, je vais de nouveau utiliser le terme de courage parce que j'estime que c'est ce dont beaucoup de gens manquent. Pas simplement d'avoir une vision, il y en a qui sont vraiment superbes, hein. Ils ont tout, mais ils n'ont pas ce petit tic-là pour aller au-delà. Au-delà de ce qui peut être considéré comme un entendu. Ou, vous allez dans le sens du poil, vous faites plaisir. Bon, moi, je ne crains pas, tout le monde n'est pas d'accord, ça ne dérange pas de défendre une idée. Mais quand je la défends, je considère que plaidoyer est un élément essentiel dans la négociation. Et que le mépris, c'est justement de ne pas faire cet effort-là, de rendre compréhensible votre démarche. Et ça, en fait, je crois que parce que j'étais beaucoup dans cette démarche, les gens considéraient que c'était une dame de fer.
D'accord. Le volontariat. C'était dans le cadre de la réforme agraire,
la révolution agraire. La révolution agraire, exactement.
Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous étiez en contact avec la campagne, avec les gens de la campagne.
Oui.
C'était probablement la première fois, non?
Alors, la campagne, c'était comment expliquer le bien fondé de la révolution agraire. Voilà. Excusez du peu. Et on est parti avec une démarche. Bon, maintenant, je ne dis pas que je regrette. Mais c'est ramener le savoir aux paysans. C'est vraiment, on ne pouvait pas être plus aveugle que ça. Et c'est leur ouverture. C'est le fait que on venait vraiment comme si on venait d'une autre planète. Il faut le dire. Hein. Surtout nous, les femmes à l'époque, c'est venu d'une autre planète. Alors qu'on venait, avec des petits t-shirts, avec un jean. Ils sont dans. Ils sont dans l'expectative à un moment donné, ils vous écoutent avec bienveillance. La bienveillance, elle est magnifique. Et le fait qu'ils nous ont accueillis comme leurs enfants, voilà, c'est des enfants d'Algériens qui viennent. Bon, prenez pas tellement acte de ce qu'on racontait sur les coopératives. On expliquait pourquoi c'était mieux d'être ensemble que d'avoir des petites parcelles. Voilà, donc on est venu semer la bonne parole. Et c'est avec le temps maintenant qu'on se dit...
Politiquement, c'était une bêtise.
Une bêtise, non, je pense pas. Ce qui était une bêtise, c'était la démarche. La démarche qui était la nôtre. Ce n'est pas de les écouter.
Non, je veux dire une bêtise dans le sens d'envoyer des jeunes citadins et citadines aller apporter la bonne parole à la campagne comme si c'était des sauvages.
Des gens qui ne comprennent rien.
L'idée derrière, c'était qu'il fallait rééduquer les paysans, c'est ça?
Oui. Ben, parce qu'il ne connaissait pas où était son intérêt, quoi. Voilà. C'était le présupposé de départ. Ouais. Présupposé de départ. Alors bon, même si eux, ben, je pense qu'ils nous ont écoutés avec beaucoup d'indulgence, sans oublier évidemment qu'on faisait nos campagnes, on les faisait en arabe. Mmh. Notre arabe était très, très mitigé. Ouais. Donc en fait, ça nous a appris plus à nous qu'à eux, il faut le dire. C'est nous qui avons tiré bénéfice.
Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
D'abord, un, de l'humilité. L'humilité par rapport au savoir universitaire. Ouais. Voilà. Le second point, c'est qu'est-ce que la camaraderie. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur un projet. Et ce projet était quand même un projet politique. Ouais. Donc comment on se retrouvait ensemble, comment on faisait nos fiches, comment on faisait, je veux dire, un peu le plan de la présentation du lendemain. Mmh. On était beaucoup dans les meetings. On allait dans des réunions aussi qui étaient organisées par la Wilaya. Donc, franchement, on était... on était dans à haranguer. Et ça s'apprend. Moi, quand je suis revenue, ils étaient admiratifs sur mon arabe, hein.
Ouais, j'étais partie, ça s'est amélioré.
C'est énormément amélioré parce qu'on ne parlait qu'en arabe. Donc, ce qui fait que ça a été une école de formation pour nous. Une école de formation, bon, je pense qu'elle est une école de formation politique, que les jeunes aujourd'hui n'ont pas. Pour créer une communauté, il vous faut des opportunités. Et je pense que, à l'époque, le président de la République, Boumdil Rahmo, je pense qu'il avait très bien compris. L'intérêt qu'il y avait à s'allier avec l'université, qui était jusqu'aux années 72-73, qui était une université contestataire, d'un ordre, à tous les points de vue. Alors, aussi bien dans les lectures que nous faisions, dans les démarches. Donc ça a remis, disons, un peu dans le cadre... ce qu'on appelait tâche d'édification nationale. Mmh. Voilà. Comment ramener à soi, mais on était, bon, évidemment, tous, on était dans l'anti-impérialisme, on était dans la révolution agraire, oui. On était... Ça, je veux dire, c'est le moule dans lequel on a baigné, et la justice sociale... Bon, vraiment, ça avait du sens pour nous. Ça avait du sens pour nous. Alors, et je peux même vous dire, pour ceux qui étaient un peu... Oui, un peu d'origine, un peu petite bourgeoise, on faisait tout pour ressembler à tout le monde. Donc on était tous avec des jeans, à s'acheter des petites bottes qui coûtaient 10 dinars à l'époque et qui puaient le soir quand on les enlevait. Mais je pense que du point de vue social, ce qu'aujourd'hui ils n'ont plus, parce qu'on fait la différence maintenant. Avec l'université, où l'université, c'est, je veux dire, c'est un lieu de passage, tandis que là, nous, on montait à 8 heures, on descendait à 8 heures du soir, et pourtant, on avait 2 heures de cours dans la journée.
C'était votre lieu de vie,
d'échange, de partage, et puis d'existence. Donc, on a vécu en tant que jeune, on a vécu en tant que tel. Ouais. Donc, on n'était pas dans l'amorosité, quoi. Ouais. Et puis, bon, sans oublier que, à l'université, ils organisaient des bals aussi. Hein. Donc il y avait des activités culturelles, il y avait une vie étudiantine extrêmement riche et qui a permis à beaucoup d'entre nous, à moi aussi, d'être socialisés, quoi. D'avoir une socialisation secondaire, quoi. On n'avait pas que uniquement celle de la famille, celle de l'école, mais là, on est rentré vraiment de plein pied dans le monde adulte, hein, quand on est rentré à l'université.
Pendant cette période du volontariat, évidemment, en tant que femme, j'imagine, hein, je pense que je dirais ça comme ça, vous avez eu un privilège particulier par rapport aux garçons, c'est l'accès aux femmes dans les villages, dans les maisons, vous entrez dans leurs espaces, ce qu'on appelle les espaces des femmes. Est-ce que cette partie-là est restée?
Bah écoutez, ça vous forge un peu toute votre démarche contre les inégalités. contre les inégalités. Et le fait d'avoir, été dans le bain du volontariat, des régions que peut-être jamais on serait allé là-dedans si ce n'était pas organisé par le mouvement estudiantin, on n'aurait pas eu à faire. Mais, disons, il n'y avait pas eu de conscience, en fait, sur la question, par exemple, la question du genre, on n'en était absolument pas consciente.
D'accord.
À l'époque. C'est arrivé très vite après. Mais à l'époque, on était dans une telle posture de découverte. Moi, j'insiste sur ce terme, une posture de découverte, une découverte de la vie. Voilà. En somme, on était protégé. Le milieu de l'école, c'est un milieu qui est protégé. Il n'est pas très loin de chez vous. Vous avez juste le trajet à faire. Mais l'université, pour nous, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Voilà. Ce que l'université a représenté, avec ses valeurs, avec ses militants, avec leurs engagements, ça a constitué pour nous un vrai modèle.
Ouais.
Un vrai modèle. Donc notre objectif, c'était comment leur ressembler, comment devenir comme eux. Donc, lire au maximum, vous savez, on faisait des notes de lecture. Donc, c'était une école de formation. C'était une école de formation parce que le principe, c'était... Et bien sûr, tout ça, c'était enrobé dans la politique de gauche, évidemment, de l'époque. Il y avait un parti qui était très, très présent à l'université. C'est le parti de l'avant-garde socialiste, donc, qui était... très proche de tout ce qui est relevé de la situation des étudiants, de la cause estudiantine, de la cause anti-impérialiste. Tous ces éléments-là dans lesquels vous baignez, ça vous laisse forcément des traces.
Vous êtes engagé dans un parti, dans une formation politique quelconque à ce moment-là, au moment où vous étiez à l'université étudiante ou un peu après, vous étiez militante dans un parti quelconque?
Parti non, mais dans les organisations, oui.
Comme quoi?
Oui, l'UNEA.
Ouais.
L'UNEA, et puis après l'UNEA, donc quand on est sorti, on avait en face de soi qu'une seule organisation féminine, c'était l'Union nationale des femmes algériennes.
Ouais.
Bon, alors, on est rentré dedans. Et ensuite, quand on a pu monter nos propres associations de femmes, on l'a fait, donc avec la FEPEC. Et puis, j'étais plutôt, au regard des responsabilités que j'ai prises, j'étais plutôt dans la construction des institutions. Voilà.
D'accord.
Je me suis complètement investie parce que, monter une administration, c'est facile. Monter une institution, c'est d'une complexité extraordinaire.
Ouais. Oui, j'imagine. Juste pour éviter une information, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, vous avez été membre, impliqué du moins, dans ce qu'on appelle le PAGS,
c'est ça?
Et vous étiez en tant que quoi dans là-dedans?
Non, on n'était pas là-dedans, mais vous savez, c'était un parti clandestin.
Oui.
Un parti clandestin.
Vous pouvez me dire le nom exact?
Le parti de l'avant-garde socialiste. Donc c'est un parti clandestin, mais qui avait une aura. Je veux dire, la question n'était pas tellement le nombre et être dedans ou pas dedans, mais ce qui était à l'extérieur, mais autour des principes qui avaient été, autour de la démarche qui était développée par ce parti, ils étaient nettement plus nombreux. Parce qu'il y avait, sur le plan idéologique, la lutte pour la justice sociale, c'était le credo. Et la justice sociale passait par un certain nombre de... un certain nombre d'organisations. Et puis c'est pour ça que, on était dans... l'organisation estudiantine, mais Je pense que à l'époque, ce qui était fondamental, en fait, même pour eux, c'était pas tellement le recrutement, mais c'est tout simplement l'influence idéologique plus que l'organique.
D'accord.
C'était l'influence idéologique, et leur influence était extrêmement forte dans le monde universitaire. Évidemment, dans le milieu enseignant aussi, puisque bon, il y avait des syndicats enseignants qui étaient dans les mêmes principes, quoi. Voilà. Mais en tout cas, au niveau des étudiants, la période 70, tant que j'ai connu très peu. Hein.
Donc le PAG, c'était de quand vous étiez enfin, à partir de quel moment vous avez rejoint dans l'idée, ne serait-ce que le PAG?
Non, c'est pas rejoint le PAX, mais ce qui est important à noter, moi j'ai jamais fait de politique avant de rentrer à l'université. Hein, c'est clair.
Oui.
Il y en a qui ont commencé très très jeunes. Moi j'en ai pas fait. J'étais encore une fois comme beaucoup de lycéens et des élèves. Bon, voilà, entre l'école et la maison, voilà. Il n'y avait pas d'autre perspective. C'est en fait avec l'organisation estudiantine.
D'accord.
Que véritablement, je peux considérer que ma formation véritable, politique. Ma formation politique, elle s'est faite avec l'UNER.
D'accord. Bon. On va avancer un peu. Vous avez soutenu une thèse de doctorat.
Oui, j'ai soutenu une thèse de doctorat de troisième cycle.
Oui.
Je l'ai fait en 1982. Et ça a été encore une fois...
Qui a porté sur quoi ?
Qui a porté sur la problématique de l'enseignement technique.
D'accord. Voilà. Okay.
Et de la problématique du développement. Alors, les questions d'éducation m'ont très vite intéressée. J'ai passé le diplôme d'études approfondies avant le doctorat troisième cycle. Je l'ai passé donc en 77 et ça portait sur l'orientation scolaire. Où la curiosité, c'était quels sont les mécanismes. Quels sont les mécanismes en jeu dans le processus de sélection? Comment se fait-il que certains se retrouvent dans des sections dites nobles, entre guillemets, et d'autres, hein, faisant partie de la même catégorie, se retrouvent dans la section technique, professionnelle? Et ça, ça m'avait amené à faire beaucoup de terrain. Et j'ai fait par exemple, pour ma thèse, j'ai fait la carte sociale des établissements scolaires d'Oran. J'étais de 8h du matin à 6h du soir en train de dépouiller des fiches, puisqu'à l'époque, on mettait quand même la profession des parents.
Oui.
Ça ne se fait plus. On mettait la profession des parents, ce qui nous servait à nous. Et ça vous fait 4-5 tableaux et ça vous prend une année de travail. Une année de travail besoin, parce que c'est très laborieux. Vous négociez aussi avec le chef d'établissement pour qu'il vous laisse un petit coin au secrétariat et vous dépouillez les fiches. C'est mes premiers centres d'intérêt. Donc, en plus, j'étais enseignante à l'université. Et quand j'ai soutenu ma thèse, c'était en 82, donc très vite après, je suis rentrée dans une unité de recherche qui a été fondée par, je pense que vous allez voir, par le professeur Nader Maarouf, en 1985. Et donc là, j'ai dirigé un laboratoire sur les systèmes de formation. Laboratoire de recherche au niveau de cette unité de recherche, dont assez rapidement après, je suis rentrée en 85 avec la création de l'unité. Et puis bon, le directeur est parti parce qu'il y a beaucoup de mobilité, bien sûr. Il est parti et puis bon, là j'ai pris la relève. J'ai été, proposé par tous les laboratoires qui étaient présents dans cette unité de recherche. Pour la diriger. Donc j'ai pris la direction de l'URASC en 89.
Oui.
1989. Et mon objectif, avec d'autres collègues bien sûr, c'était comment une unité de recherche n'a pas beaucoup de moyens financiers, vous partagez avec l'université, vous avez très peu, même si c'était une unité de recherche pluridisciplinaire, qui recrutait sur le territoire national, des chercheurs associés, hein, il n'y a pas de permanent. Et c'est à l'issue de trois années, de 89 jusqu'en 92, on a réussi finalement à sortir avec un décret de création du Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle. Ouais. Ça, c'est en 92, qui est le CRASC aujourd'hui, oui. Et que j'ai dirigé jusqu'en 2014.
Dès le début, vous prenez la direction.
Ah oui, parce que quand... Et pourtant, j'ai déposé ma démission. Hein. J'ai dit que ma mission a été accomplie, donc auprès de mes collègues du Conseil scientifique. Et puis alors du coup, mais vraiment, c'était à l'unanimité, non, t'as tellement bien fait pour transformer. Bon, et c'est à toi que revient la tâche du montage administratif, organisationnel et réglementaire. Voilà.
C'est un bon moment, malgré les difficultés, j'imagine.
Je sais pas, moi quand je prends une responsabilité, j'ai toujours l'impression aussi d'être victime de quelque chose. Voilà. Quand je l'ai pris en 89, après le départ de Marouf, je sentais comme une pesanteur. Ouais. Comme quelque chose dont je ne pourrais pas me départir. Et à partir du moment où on vous désigne, mais je veux dire par mes collègues, j'avais comme l'impression d'avoir pas le choix. Voilà. Donc je fonce, je dis, s'il me propose, c'est qu'il doit avoir confiance, c'est que je dois avoir des compétences également pour le faire. Et résume-moi, cette confiance me piège également, aussi. Parce que ça me fait accepter, alors que très honnêtement, j'adore le travail de terrain, les enquêtes. Ce qui fait que je passe mon temps à voler de mon temps administratif. Et... Pour faire autre chose, pour faire ce que j'aime.
Vos enquêtes, jusqu'à quel moment vous avez fait vous-même vos propres enquêtes ? Parce qu'à un moment, vous dites, c'est pas possible de continuer comme ça, je vais procéder autrement.
Écoutez, moi, j'ai procédé autrement dans les enquêtes, c'est vrai. Dans les enquêtes nationales où on allait sur le terrain, dans plusieurs wilayats, quand j'étais directrice du centre, on avait plus de mal à le faire, mais je me suis beaucoup investie dans les focus group. Oui. Si je peux pas aller au terrain, le terrain viendra à moi. Donc j'ai beaucoup travaillé auprès des jeunes, auprès des jeunes, auprès des femmes, et auprès évidemment de la catégorie des enseignants, et on travaillait beaucoup, disons, dans ces workshops, oui, dans lesquels vous écoutez beaucoup, vous avez quelques questions et vous apprenez énormément. Alors même des terrains qui vous avez l'impression qui vous sont familiers, ce qui est extraordinaire dans la recherche, c'est que vous êtes en apprentissage permanent. Alors, cette disponibilité que j'ai aussi à apprendre des autres. Et quand je vous dis apprendre, sur toutes les enquêtes, par exemple, que j'ai menées auprès des jeunes, il y a des phrases qui me restent en tête. Celles que j'avais faites auprès des jeunes lycéens et lycéennes. La phrase qui m'est restée en tête pour une lycéenne, dans laquelle je le posais, qu'est-ce que représente pour vous l'école ? Qu'est-ce qui représente pour vous le lycée ? La réponse est « t'kra hayat ki ma t'krash ». C'est tellement fort. Alors ça vous suffit pour construire véritablement après toutes vos hypothèses. Et puis il y avait un autre jeune, c'était qui avait bénéficié de l'emploi de jeunes, dans le cadre d'un financement, par le biais de l'ANSEJ, qui est l'Agence nationale d'emploi et de soutien du travail des jeunes, et avec qui on a discuté. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns quelques-uns, et puis pour savoir un peu, bon, voilà, l'État est à votre disposition. Franchement, ils ont accès au crédit, mais vraiment des formules extraordinaires. Pour moi, je ne comprenais pas comment certains pouvaient être en opposition par rapport à ça. Et puis, mais alors là, quand vous prenez la peine de les écouter, et pas simplement de prendre des postures tout de suite rapides, il y en a un qui a dit qu'il est vrai qu'avant on était chômeurs. C'est-à-dire, en fait, on n'avait pas de travail au sens où eux entendaient la notion de travail. Oui. C'est-à-dire quelque chose de permanent, de constant. Et qu'on était chômeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on est devenu? Eh bien, on est devenu des chômeurs endettés. Alors, quand vous entendez ça, c'est après que vous comprenez que, certes, l'État a mis à disposition des sources de financement importantes. Mais la deuxième étape, qui était celle, par exemple, d'avoir des marchés. Moi, j'avais beaucoup traité avec des jeunes qui s'étaient investis dans le nettoyage, le nettoiement des rues, l'hygiène, donc avaient acquis des camions, des bennes, investi l'argent qui leur avait été prêté par l'État. Ils avaient recruté aussi des travailleurs, donc c'est... Mais au moment d'avoir des contrats, parce que ceux qui s'intéressent à cette problématique, c'est les pouvoirs publics, c'est notamment la commune. Ben, ils n'arrivent pas à décrocher des marchés. Parce que là-dedans, il y a tellement des histoires de réseaux que quand vous les entendez, après, je ne dis pas que vous considérez comme étant normal, mais il y a eu... Beaucoup de dévoiements, du matériel qui a été refondu, alors que l'expérience en elle-même est extraordinaire. Mais parce que le deuxième temps n'avait pas été pensé, donc a fait que les jeunes continuent encore à se plaindre. Enfin, pas tous, bien sûr, il y en a qui réussissent. Mais pour ceux qui sont dans l'obligation de travailler, enfin, tout dépend du secteur qu'ils investissent, alors ceux-là, ils disent, bon, maintenant, je suis un chômeur endetté. Voilà, j'ai ce qu'il faut, je dois rembourser dans 5 ans, je n'ai pas encore... que dois-je faire? Et une autre expérience avec des jeunes qui étaient là aussi, dans le cadre de l'emploi de jeunes, et l'État donnait la possibilité de se constituer en coopérative. Mais l'objectif de la coopérative, de la mise en coopération des jeunes, c'était de leur permettre d'avoir une première expérience de travail. Or, toutes les enquêtes que nous avons menées, ceux qui avaient réussi, c'est ceux qui avaient déjà une expérience de travail. En fait, les coopératives leur ont servi de moyen de promotion. Mais l'État considérait que c'était une expérience négative. Alors qu'en fait, effectivement, le fait de ne pas tenir compte de qu'est-ce que les acteurs sociaux font de ce que vous leur proposez peut aboutir à des décisions qui sont des décisions qui ne sont, comment dirais-je, qui sont en porte-à-faux par rapport au bonheur que vous leur apportez. Et quand vous voyez aussi les intitulés qu'ils donnent à leur coopérative, et dans les années 94-95, on est en plein, je veux dire, de guerre contre les civils. C'est pleine période de terrorisme où tout le monde est ciblé, où les coopératives ont permis de donner de l'espoir. Et les intitulés, les dénominations de ces coopératives vous donnent tout l'espoir qui a été ouvert grâce à ça. Et pareil, vous considérez que bon, c'est une expérience qui a échoué. Je pense que ici, la recherche en sciences sociales, dont nous avons un peu l'obligation de, à un moment donné, d'être les porte-parole.
Oui. Hein,
d'être les porte-parole. Parce que en usant d'absence de préjugés de départ et en essayant de voir un peu partir évidemment d'hypothèses pas souvent construites au départ. Souvent, nos hypothèses, on les construit à la fin. Mais d'être dans une démarche, oui, de type anthropologique, ethnographique à la fois, vous aide en fait à, comment dirais-je, non seulement à mieux apprécier le réel, mais qui est d'une richesse. Que finalement, quand vous êtes dans votre bureau, vous ne pouvez pas soupçonner. Et lorsque le travail de chercheur et puis de, voilà, et de bâtisseur d'une institution a été fait dans un environnement délétère, dans un environnement où, pour beaucoup de personnes, partir était peut-être la seule issue qu'ils avaient entrevue.
Alors justement, on va revenir au CRAS, puis on ne va pas oublier, mais cette parenthèse des années 90, je ne veux pas vous laisser passer comme ça facilement. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous vous êtes acharné au moment où ce qui pouvait être le plus dangereux pour vous? Voilà, de mon point de vue, mais je peux me tromper aussi. C'était peut-être pas si dangereux que ça.
Non, c'est dangereux. Et puis on a reçu plein de lettres de menaces. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a jamais fait partie de nos options à nous. Non. De la famille. Mais pas du tout. Alors que tout le monde nous prêtait. Bon, de toutes les façons, vous, si vous avez envie de partir, c'est très simple, vous connaissez plein de monde, vous vous installerez très vite.
C'était pas faux.
Non, ça, c'est pas faux. On connaît énormément de monde. Mais à aucun moment, l'idée de partir ne nous a traversé l'esprit.
Et qu'est-ce qu'il y avait derrière?
Derrière, il y avait le fait que chaque génération, voilà, elle a des comptes à rendre, si l'on ose dire. Et la nôtre, c'était celle de construire et de bâtir les institutions de la République. Malgré les risques. Avec les risques. Donc on a fait avec les risques.
Donc vous assumez la responsabilité d'être personnellement vous-même ou votre compagnon, vos enfants, soit physiquement agressé, voire éliminé.
Vous savez, après vous représentez quelque chose dans le microcosme dans lequel vous évoluez. Ouais. Alors si vous partez, c'est aussi cette petite confiance qui relie les uns aux autres, risque de partir. Donc là aussi, on se sent des responsabilités dans ce microcosme, parce que bon, on a toujours défendu, les politiques publiques, en tout cas de justice, de construction, d'éducation pour l'ensemble de nos élèves, d'ouverture de l'université. Bon, là, ça signifie qu'à un moment donné, vous êtes redevable. La société vous a fait confiance, elle vous a permis d'arriver là où vous êtes. Et lâcher, c'était le fait de lâcher, c'est une trahison. Voilà. J'utilisais le mot. Si on était parti, on l'aurait vécu, nous, personnellement.
Comme une trahison. C'est impressionnant. Je reviens sur cette parenthèse et j'ai la réponse. Je reviens toujours au CRASC pour le moment. C'est un centre de recherche, le CRASC. Vous l'avez dirigé pendant 8 et 14, presque 22 ans, c'est ça? Est-ce que le CRASC a rempli sa mission? Est-ce que vous êtes content du bilan par rapport à ce que vous vouliez au départ? Créer un centre de recherche, vous avez des rêves, vous voulez faire des choses. Est-ce que vous avez atteint ces objectifs de départ?
Je crois que oui, en toute modestie, je crois que oui.
Le CRASC, je parle.
Oui, le CRASC, oui. très très honnêtement, oui. Je crois que l'investissement a été payant. Oui. Aujourd'hui, on a beaucoup de chercheurs permanents. On était au départ, vous savez, dans un petit appartement de 160 mètres carrés. Mmh. Ensuite, on a acheté un immeuble en 94, donc qu'on a occupé en 96, mmh. un immeuble qui était en construction. Mais là, tout le monde partait, et puis nous, on était en train d'investir, mais ça a redonné de l'espoir qu'on ne pouvait pas vous imaginer. Bon. Le fait qu'il y ait du répondant, mmh. et je dis mais sur le territoire national, mmh. des chercheurs qui étaient isolés, mmh. dans des universités, et quand on a pu reconstruire le réseau, mmh. comment on a pu faire face à l'ennemi, il faut le dire, à l'ennemi de l'intelligence, parce que c'est ça qui était pisté, tout ce qui était réflexion, tout ce qui était intellectuel, tout ce qui était d'ouverture, tout ce qui était en lien aussi avec la société. Il fallait prouver que les choses étaient impossibles. Donc il est vrai qu'entre deux enterrements, un enterrement c'est toujours très pénible. Moi j'étais dans mon bureau quand on nous a annoncé que le ministre de l'enseignement supérieur avait été assassiné, c'était Djalil Yebsler Hamo. Je veux dire, et puis il faut vous reprendre et puis dire que voilà, quelqu'un qui a payé de sa vie, le fait d'être resté.
C'est... Vous avez enterré beaucoup autour de vous ?
Oui, des proches, des collègues. Des collègues. Notamment, on en a un qui nous avait déposé son papier parce que Hassan a coordonné un ouvrage. Il avait déposé son papier le week-end et puis le samedi, il avait été assassiné devant chez lui. Donc, ce qui fait que cette pression, je crois que les gens ne se rendent pas trop compte de dans quel climat nous avons vécu. Quel climat nous avons vécu et surtout dans quel climat on a continué à construire. On a continué à construire. Et quand je veux dire, j'insiste sur les étapes et la période. Donc on est rentré dans cet immeuble, auquel j'ai participé évidemment, à son architecture, à dessiner, parce que c'était une carcasse. Voilà, oui. On avait acquis une carcasse. Et puis, ensemble, alors franchement, on a créé un collectif. Collectif de chercheurs qui en plus n'était pas un collectif fermé. C'est un collectif qui était ouvert et c'est y compris avec eux en 96. Donc on a organisé à l'occasion de l'inauguration de ce centre, qui était un immeuble, on a organisé, on a mis en question l'université. C'est quoi l'université aujourd'hui ? Donc on a fait un séminaire national auquel beaucoup de nos collègues ont participé. C'est sorti en tant qu'ouvrage et qui a été piloté par, à l'époque, celui qui était président du conseil scientifique, c'est en l'occurrence le professeur Garid Jamal Lehmo, qui est décédé et qui avait organisé. Ensuite, si vous voulez, après avoir organisé ce séminaire, on était en pleine construction, je dis bien, institutionnelle. Il n'y a rien de plus complexe que ça, parce que vous faites face à plein de choses qui sont construites dans les têtes des gens. Chacun voit la recherche, c'est la liberté, c'est je travaille comme je peux, comme j'ai envie, et puis j'ai la liberté d'identifier mon objet comme je veux. Alors c'est comment travailler tout ce qui pouvait paraître comme étant paradoxal, les travailler ensemble. Et surtout en amenant des arguments. Je veux dire que oui, c'est bien d'avoir une recherche autonome, mais répondre aussi à la demande sociale, c'est aussi important, parce que si on ne le fait pas, c'est d'autres qui le feront, Et il est plus intéressant, et j'ai un exemple d'abord qui me concerne directement, c'est tous les travaux que nous avons menés sur la petite enfance. Vous savez, les enquêtes que vous menez au regard des moyens qui sont mis à votre disposition, bon, c'est quelques écoles, quelques... Et puis du coup, là, vous avez une proposition entre l'Éducation nationale et l'UNICEF de faire une enquête nationale. Ben, pour nous, c'est le bonheur. Pour nous, c'est le bonheur de pouvoir mener une enquête et de, je dis pas simplement de vérifier, mais de valider tout ce que vous avez fait dans des microcosmes. Ouais. Vous avez besoin de valider vos hypothèses, vos points de vue, vos explications, la construction que vous faites d'un certain nombre de... Oui, en qui met de théorie, ouais. Vous avez besoin de les tester.
Est-ce que vous intégrez les demandes de l'État dans ce que vous appelez les demandes sociales?
Totalement, totalement. Et ce à quoi on répond, c'est, je vais dire, c'est à 95%, c'est des thématiques que nous abordons déjà. Que nous abordons déjà. Mais c'est, quand je pense sur la toxicomanie, sur les violences scolaires, quand vous prenez sur les femmes et le travail, on a piloté une enquête magnifique, une enquête nationale qui nous avait été commanditée par le ministère de la Solidarité. Mais c'était pour nous du pain béni. On prenait pratique très peu d'argent, franchement. Hein, on retombait sur les chercheurs très très peu. Mais ce qu'on demandait, c'était les moyens pour mener une enquête nationale.
Je ne veux pas remettre en question ce que vous dites. Je vous prends sur parole. Mais est-ce que vous pensez que toutes les enquêtes que vous avez réalisées à la demande de l'État, vous les avez faites en toute indépendance? Du moins, est-ce que les chercheurs ont travaillé en toute indépendance?
Totalement. Je veux dire, c'est ça ce qui est surprenant. Et c'est ce qui surprend ailleurs. Et quand, dans les années 2000, on a eu, la Commission européenne a lancé un appel d'offres. Un appel d'offres pour le montage d'une unité de gestion de programme pour soutenir les associations algériennes qui s'intéressent au développement. Voilà, et tout. Ouais. Et évidemment, pour candidater à un financement étranger, vous prenez évidemment l'avis de votre tutelle. Puis il nous a dit, bon, il n'y a pas d'inconvénient, vous y allez. Alors, première délégation qui vient, ah, vous êtes une organisation gouvernementale. Bah oui, on est une organisation, on est financé par l'État. Et nous sommes une institution publique, nous ne sommes pas une institution privée. Mais nous sommes une institution publique avec, franchement, j'atteste, avec une entière liberté académique. C'est bon, c'est pas bon. Tout dépend du point de vue, moi, ce que je vous fais là, c'est le témoignage de quelqu'un qui a été, pendant 22 ans, et à aucun moment, on nous a dicté des choix en matière d'identification d'objets de recherche. Je dis bien à aucun moment. Alors, ce qui fait que les pouvoirs publics ont lancé, évidemment, des lois sur la recherche et des programmes quinquennaux, à nous de candidater. C'est ce qu'on faisait. On avait des projets, ce qu'on appelle les projets d'établissement. Donc là, vous êtes libre de choisir le thème que vous jugez intéressant. Et nous, on les défend en disant la chose suivante. Si vous avez considéré que la question des jeunes dans les années 98 est devenue une question majeure dans la société, notamment avec l'apparition des kamikazes. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre. Des gens qui sont malheureux, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de niveau scolaire, ça se comprend. Mais là, non. Les kamikazes étaient des jeunes brillants et qui étaient scolarisés. Alors certains, ingénieurs, informaticiens. Alors, comment comprendre cette réalité? Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, au préalable, depuis déjà les années 90, on avait déjà investi ce champ de recherche. Alors, ce qui fait que quand, à un moment donné, les pouvoirs publics se trouvent en face d'une question qu'ils considèrent comme étant incompréhensible, qui se tournent vers les centres de recherche. Je leur dis, vous trouvez quelques réponses, quelques éclairages, mais parce que nous, on a pu identifier nos thématiques au moment où, je veux dire, vous y intéressiez pas trop. Et ça, je crois que ça a été... les chercheurs, en fait, c'est des gens qui vivent dans cette société. Parfois, je ne comprends pas l'opposition qu'on fait entre une demande qui, elle, provient d'une instance ou d'une institution et ce que peut proposer le chercheur. C'est le dénuer aussi de ses racines, de son ancrage, lui aussi, dans une société et qui se saisit des questions qu'il juge comme étant des questions importantes, qu'il faille porter de l'éclairage dessus.
Par rapport au CRASC, pourquoi est-ce que j'ai l'impression, alors c'est peut-être ma vision d'optique qui me met en erreur, pourquoi j'ai l'impression qu'en termes de production de livres, de production scientifique, de connaissances sur ce pays, sont si peu nombreuses.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous prenez aussi comme élément de comparaison. Nombreux ou pas nombreux. Bon, je vous laisse la responsabilité de votre point de vue. Mais ce que je peux dire, c'est que on a... que vous êtes en phase de plusieurs enjeux et plusieurs défis, surtout plusieurs défis. D'abord, la recherche, notamment la recherche permanente, c'est quelque chose de très récent. Ça date de 2008. Avant, ce n'était que des enseignants-chercheurs. Et quand vous avez l'ouverture de l'université à un grand nombre d'étudiants, vous êtes complètement pris dans le pédagogique. Je dis bien complètement pris dans le pédagogique. Donc il y a où vous avez les deux tiers du temps que vous consacrez à l'enseignement. Un tiers de temps qui vous reste un peu à la recherche. Donc le fait que à partir de 2008, il y a eu le statut du chercheur permanent, même si le chercheur permanent, ils l'ont mis dans la catégorie des fonctionnaires. Bon, là, ça se discute. Mais en tout cas, donner la possibilité à quelqu'un de ne faire que ça, et de se consacrer entièrement, il n'y a pas d'antécédent. C'est un apprentissage. Et cet apprentissage, il prend du temps. C'est une relève, c'est une nouvelle génération qui vient sur le marché du travail, notamment du travail, notamment de recherche. Et en même temps, il fallait construire les supports ou l'écosystème qui permet à ce chercheur de se déployer. Et le troisième point, c'est qu'on a démarré avec ça, on était, le pays était pas simplement en chantier, il était, certains voulaient le détruire. Donc vous voyez tous les défis auxquels vous aviez affaire, et pourtant, nous avons lancé le premier numéro d'INSANIAT en 1997. Quand, moi, nous avons été très fiers, d'avoir fait notre premier numéro, et bien quand on a envoyé le 1 et le 2, on a envoyé quelques universités, on a eu quelques lettres, bon, mais c'est bien, mais on verra si vous allez continuer. Ben écoutez, 2023, on est au 100e numéro, on va sortir notre 100e numéro
bientôt,
et ça montre qu'il y a une constance dans l'effort. Il faut qu'il y ait de la continuité. S'il y a un monde dans lequel les ruptures sont malsaines, c'est, je pense que c'est dans le monde de la recherche, qui a besoin de temps, qui a besoin d'accumulation, voilà, et qui a besoin d'ouverture. Et c'est pour ça que, bon, même si à un moment donné, moi-même, je n'étais pas à l'aise avec moi-même, avec le nombre d'années que je passais, mais je ne les ai pas vues passer. Parce que, vous voyez, on était dans un appart, on a occupé un immeuble, on a construit un centre de plus de 4000 m².
Vous avez combien de chercheurs maintenant ?
Quand on a un chercheur, c'est C'est un centre, je veux dire, dont l'architecture nous a demandé un investissement, mais collectif. Mmh. On a énormément débattu de l'architecture, qui est évidemment rabomoresque, et qui est dont il fallait ensuite meubler, machin. Bon, il y a la touche féminine, bien sûr. Mise l'enseignement supérieur qui était venu inaugurer et qui dit, mais comment se fait-il que, y compris la couleur des rideaux, ça change d'un étage à un autre? Ah, je dis, mais ça c'est la touche. C'est parce que non seulement on s'y intéresse, c'est parce que c'est les lieux dans lesquels on va passer le plus grand temps.
C'est un espace de vie, au fait.
C'est un espace de vie. Ouais. C'est un espace de vie.
Oui. Alors, je vais aborder, avec votre permission, la phase des responsabilités politiques. Je sais que vous avez été ministre entre 2014 et 2019. Donc vous sortez du CRASC, vous prenez tout de suite un poste. J'ai tout de suite une question immédiate. Pourquoi vous avez accepté?
Ben, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a un sens du devoir qui vous surplombe. Et lorsque vous avez été... puis vous prenez vous-même... Oui, c'est vrai, on est chercheur, mais j'ai été aussi beaucoup commis de l'État. Mmh. Voilà. Mmh. Et en tant que tel, je continue toujours à croire que nous avons des obligations. Et dans ces obligations, si on vous propose, et que d'ailleurs, de toute façon, je n'ai pas tellement eu le temps ni de réfléchir, ça m'est tombé comme ça. Franchement, il n'y avait aucun signe avant-coureur. J'ai pris ça comme étant, encore une fois, un nouveau défi qu'il faut relever. Et comme j'ai énormément travaillé sur les questions d'éducation, bon, ça m'a surpris, ceci étant dit, qu'on puisse me confier un tel portefeuille. Oui. Je crois que j'ai fait répéter 3 fois que c'est bien ce secteur-là, quoi. Mm. Bon. Alors, je me suis dit, le risque est péril, quoi. J'ai écrit, j'ai fait des enquêtes, j'ai jamais caché mes opinions. Elles sont formalisées à travers des textes publiés. Et donc... j'ai supposé que on connaissait un peu le sens dans lequel je voulais aller et que l'état de dégradation dans lequel était l'école, peut-être qu'il lui fallait un petit coup de pied dans le fond milière.
Juste une question technique, quasiment. Est-ce que ça aurait été possible à ce moment-là de dire non, merci, je ne souhaite pas rejoindre le gouvernement? Est-ce que c'était risqué pour vous?
Très honnêtement, c'est des questions que je ne me suis pas posées. La question de renouvellement générationnel a travaillé de tout temps. C'est pas possible que vous puissiez partir sans que la nouvelle génération soit déjà à l'œuvre. Donc on a monté une post-graduation. Ensuite, non content de monter une post-graduation, on a monté une école doctorale nationale avec 6 universités dans le pays, dans lequel on a fait circuler des collègues venant d'ailleurs et d'ici, avec des ateliers méthodologiques organisés de manière hebdomadaire. Ensuite, on a répondu à un appel d'offres qui a été lancé par le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales, qui est basé à Dakar, pour la publication de la revue africaine des livres, ARB. En 2004, on a eu le marché. Donc on a monté une deuxième revue africaine, où l'ancrage pour nous était essentiel. Je veux dire que vraiment, qu'il fallait absolument regarder du côté de l'Afrique, parce que... les mêmes expériences, souvent la même volonté ou le même souci d'avoir une perspective endogène du développement des sciences sociales était partagée, mais c'est là-bas qu'il fallait aller. Évidemment, le Maghreb, mais l'Afrique. Et avec ça, il a fallu imaginer, y compris la façon de travailler des chercheurs. Donc on a proposé le crédit horaire, c'était des fonctionnaires. Or, fallait-il, comment dirais-je, les contrôler en tant que fonctionnaires, ou au contraire, donner la possibilité avec la formule du crédit horaire, vous venez quand vous voulez, l'essentiel c'est au moins de faire vos 8 heures. Voilà. Et qui pouvait venir le vendredi, il pouvait venir les jours fériés, tout était comptabilisé. Alors ça c'est extrêmement important. Et puis organiser des grands colloques comme sur l'état des savoirs qui est publié là, oui. Derrière moi, c'est pas rien, sur les sciences sociales dans le monde arabe, sur donc je n'ai pas senti le temps passer, oui. Parce qu'en fait le travail avec mes collègues, hein, peut-être que j'étais responsable, je faisais du pilotage, oui. Mais la confiance qui est faite en vous, c'est aussi parce que vous ne comptabilisez pas votre temps et que vous mettez votre carrière entre parenthèses. Oui. Ma carrière était très très longue. Oui. L'habilitation universitaire, je l'ai soutenue en 2012. J'ai commencé à travailler en 1973. Donc ce qui fait que tout m'a pris un temps fou. Oui. Mais parce que je n'étais pas de celle à venir à mon bureau pour travailler sur mes projets. Je considérais qu'il fallait travailler ça entre 5h du matin et 9h, c'est ce que je faisais, ou quand je sortais du bureau, c'est-à-dire souvent, c'est à partir de 6h, 7h du soir. C'est un deal, c'est mon engagement, c'est aussi mes valeurs.
Donc le ministère est venu dans la logique des choses.
Exact.
Je sais que vous avez été très attaqué, mais ça, j'ai lu pas mal de choses et je sais jusqu'où les insultes et les agressions sont allées. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que vous avez bien fait, a posteriori bien sûr, vous avez bien fait d'accepter et que vous avez rempli votre contrat avec vous-même, non pas avec le gouvernement, ça c'est notre histoire. Non.
Avec moi-même, je pense que je l'ai fait parce que j'ai pas calculé mon temps. Ouais. J'étais en permanence dans l'Uléate. Ouais. J'ai visité au moins 2 fois chaque ville, donc chaque wilaya, ah. Un territoire de plus de 2 millions de mètres carrés, ça vous donne une idée, où je n'avais que le vendredi, je dis bien, que le vendredi, et parfois même le vendredi, je prenais la voiture et on allait dans les wilayas. Je crois que parmi les effets positifs, qui me sont renvoyés, hein, vous savez, je continue encore à être interpellée dans la rue, j'imagine. Mais pour prendre des photos, je sens une empathie extrêmement importante, et ça, vraiment, c'est un bonheur que vous ne pouvez pas mesurer. C'est d'avoir redonné confiance, que les choses étaient possibles. Ça ne veut pas dire que les choses ont été faites. Mais juste d'avoir redonné la confiance qu'il était possible de faire autrement. Donc d'avoir vendu du rêve, parce que le rêve est important pour travailler. Et le fait que l'école ait été au centre des débats, du citoyen ordinaire. Pour moi, c'est un effet très positif. Tout le monde se sentait concerné, non pas exclu, parce que l'information était donnée par tous les moyens, les réseaux, le Twitter, les conférences, la radio. J'ai fait un travail de communication. C'est peut-être ça aussi qui m'a valu autant de critiques, parce que les conservateurs, qui eux ne sont pas en accord avec l'ouverture de l'école, une école républicaine, démocratique, qui partage, qui maîtrise non seulement la langue arabe, mais qui maîtrise aussi la langue tamazire, les langues étrangères. Vous savez, ça remplit pas. J'ai été, comment dirais-je, interpellé pas simplement au travers des médias, mais y compris à travers le Parlement. Le Parlement, j'ai été presque j'avais 2-3 questions par semaine. 2-3 questions par semaine auxquelles il fallait répondre, soit oralement, soit par écrit.
Vous répondiez...
C'est complètement, parce que j'estime que si on pose une question, je suis dans l'obligation de répondre. Et surtout, je suis dans l'obligation d'expliciter ce qu'on est en train de faire pour leurs enfants.
Et parce aussi, que c'est une manière de répondre aux attaques, non ?
Ah, complètement. J'imagine. Ah oui, il n'y a pas de... Je veux dire que la transparence, pour moi, c'est une règle. C'est une règle que je me suis imposée. Bon, certains me disent qu'il ne fallait peut-être pas trop parler, mais non, j'ai dit, l'école est une... C'est l'affaire de tous. Je ne vois pas pourquoi elle serait l'affaire de spécialistes. C'est l'affaire de tous. Les mamans, les sœurs, les pères, ils ont tous envie de comprendre, et je pense qu'on a pu leur donner en tout cas des clés d'entrée, des clés de compréhension, et plein de mesures ont été prises, même si c'était pas visible à l'époque, mais maintenant quand je suis interpellée, on me dit, si on vous avait laissé le temps, bon, j'ai dit, oh, l'école c'est sur le long terme, hein. Pour quelqu'un qui a envie de faire une carrière en tant que politicien, c'est peut-être pas à l'éducation qu'il faut aller. Parce que pour recueillir les résultats, c'est vraiment, quand je dis vraiment sur le long terme, et sur le long terme, quand il n'y a pas de tabula rasa.
Oui.
Il faut recommencer à zéro.
Vraiment, par honnêteté, moi quand j'ai parlé, j'ai dit à certains amis, femmes et hommes, il y a 3 ou 4 qui algériens, quand je leur ai dit que j'avais rendez-vous pour une interview avec vous, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher chez une femme de gauche qui a accepté de travailler avec un gouvernement de l'ex-président Bouteflika. Moi, je sais pourquoi je suis venu vous voir.
Oui. Bon. Alors, je suis peut-être plus dans l'état d'esprit de l'acteur du système, de Crozier, de Ribert.
Oui.
C'est-à-dire là où vous avez des marges de manœuvre. Et se cacher derrière une argumentation qui, à mon sens, n'a pas de sens. Et que ce que je défends, c'est que là où on est, et quelle que soit notre posture, on peut faire des choses. Ça veut dire que je crois en la capacité d'être un acteur. Il y a des difficultés, je les affronte. J'ai des ennemis, je débat avec eux. C'est quand il aurait été impossible de faire quelque chose, croyez-moi, j'aurais démissionné. Mais c'est l'inverse qui m'a étonné, figurez-vous. L'inverse qui m'a étonné, c'est que quand vous passez ministre, que vous aussi vous avez des préjugés, en disant vous allez recevoir des notes tous les matins, rien. Alors j'atteste, comme directrice d'un centre de recherche et comme ministre, à aucun moment, et là aussi, c'est en mon âme et conscience, à aucun moment, je n'ai eu un coup de téléphone sur « vous auriez dû faire ça au lieu de faire ça ». J'estime que la maturité qu'on a acquise grâce à l'expérience, grâce à nos lectures, grâce à nos travaux de recherche, nous rend sages, mais en même temps, ne pas surfer sur les opinions dominantes, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais au contraire, savoir les affronter. Ouais. Et quand vous savez faire face, bon, j'ai toujours eu du bonheur. Franchement, j'ai fait 5 années à raison de chaque fois que je me déplace dans une wilaya, je rencontre les chefs d'établissement, je fais une réunion avec eux, je me réunis avec les inspecteurs. Je me réunis avec les syndicats. Et les syndicats, je les laisse toujours à la fin parce que, pour moi, il n'y a pas de temps horaire pour les syndicats. Oui. Et c'est comme ça que je leur explique.
D'accord.
Je leur dis, si je vous vois à partir de 18h, 19h, c'est parce qu'on peut aller jusqu'à minuit, 1h. Ça ne me dérange pas. Et chaque fois que j'ai eu à me déplacer, et je vais vous dire franchement, et alors sans oublier que quand vous allez dans les écoles, vous discutez avec les enseignants, vous discutez avec les élèves, où il y a un trop-plein, j'ai pas encore fait le tri dans ma tête, parce que je n'étais que dans l'accumulation, dans le fait de donner et de recevoir. Vous recevez beaucoup hein, en contrepartie. Je vais vous dire, ça vous laisse. Ça, voilà. Et les préjugés que nous pouvons avoir sur un gouvernement, sur un mode de fonctionnement politique. C'est vrai qu'on peut avoir une vision macro, mais moi j'ai été toujours pour une vision méso et micro, à ce niveau-là.
Vous étiez soutenu au sein du pouvoir ? On vous appelait pas, mais est-ce que vous étiez soutenu ?
Soutenu, je pense que je devais l'être. Pense que je devais l'être parce que il est tellement plus facile de vous dire faut pas faire comme ça, faut faire autrement.
Bien sûr.
Et publiquement de devoir démentir votre démarche. Ils se sont au contraire, je pense que il y a eu une appropriation, il y a eu une compréhension, même si je reconnais avec le recul, il y a peut-être des questions qui n'étaient pas matures et que j'ai abordées. J'ai abordé parce que le va-et-vient continuel entre le chercheur et le politique que j'étais, parce que je lisais le soir, hein, et sans oublier que j'étais aussi à l'écoute de tout ce qui s'écrivait sur moi. Certaines campagnes violentes qui ont été lancées, pour moi, je les considérais peut-être maintenant avec le recul, peut-être comme étant non matures, parce qu'il n'y a pas eu l'investissement nécessaire, attendu, d'un secteur qui était l'université. Alors, quand vous avez des politiques qui traitent de questions, entre guillemets, tabous, ou considérées comme tabous, ils étaient plus dans les spectatives, majoritairement. Certains non, il y en a qui ont écrit, mais à mon humble avis, de manière insuffisante. Voilà.
Oui.
Ils sont restés très confortés, comme vous venez de le dire, dans votre idée. C'est un gouvernement, on sait dans quel sens il va, donc ils font leurs petites affaires et c'est pas la peine qu'on s'en occupe.
Oui.
Ça, pour moi, c'est une attitude de confort. Et que moi, personnellement, je n'ai pas. Et je passe mon temps à me remettre en cause en permanence. J'ai beaucoup d'ambition, d'amour pour les enfants. Je les adore. Enfin, c'est pour ça que peut-être que je ne calcule ni mon temps ni rien. Mais en même temps, les intérêts personnels, les carrières personnelles, Les égos. Certains sont pourris par leur égo. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils ne peuvent rien faire. Alors, si vous avez à choisir entre un grand maître avec un égo surdimensionné et quelqu'un peut-être de plus modeste, plus pratique, plus pragmatique, c'est peut-être ma condition de femme. Je ne sais pas. Peut-être que quand on est femme, on est tout le temps en remise en cause en permanence de sa posture, de sa position, de est-ce que ce que je vais faire c'est bien, et de me poser des questions, ne pas être dans l'assurance et dans le confort.
Ah, j'aurais encore 50 questions à vous poser, mais je vais m'arrêter à la dernière. Est-ce que vous êtes heureuse de votre bilan, s'il fallait faire le bilan aujourd'hui, à titre personnel, à titre social, à titre professionnel, à titre de chercheuse et à titre de femme, très important.
Oui, je crois que j'ai une certaine fierté.
Oui.
Une fierté de ce que j'ai fait sur le long terme, que je n'ai pas triché. Voilà. Oui. Je n'ai pas triché. Et puis le regard des autres aussi vous conforte, oui, dans cette fierté. Oui. Et Dieu sait que ce n'était pas dans le comment dirais-je, dans un climat, le climat dans lequel je travaillais était un climat hostile. Même en tant que directrice de centre de recherche. Le nombre de lettres anonymes, de collègues, sans égal. Bon. Et alors, quand je suis passée dans la politique, là aussi, c'est pareil. Donc, de travailler dans un climat de conflictualité et de s'en être sortie, de ne pas être arrivée dans un hôpital psychiatrique, je crois que ça a été possible parce que, en fait, j'étais dans une bulle. Voilà. Quand je fais quelque chose, je rentre dans une bulle.
Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que vous referiez tout exactement comme votre vie s'est passée ?
Oui. Vraiment. Oui. Vraiment. C'est à tout point de vue. C'est bon, il y aura peut-être juste des nuances à faire.
Oui.
Des nuances à faire. Mais sinon, globalement, vraiment, j'ai bon, on n'a pas beaucoup parlé recherche, mais bon, il y a des travaux, tout, mais allez. Mais disons, je crois que là aussi, une division de travail, il faut accepter aussi qu'il y a des entrepreneurs dans la recherche, comme il y a le chercheur solitaire qui, lui, finalement, vous le mettez dans le management et il ne s'en sortira pas. C'est une catastrophe, même. Oui. Alors, ce qui fait que si on accepte qu'il y ait une division de travail, que nous sommes tous utiles, mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'éthique dans notre travail, qu'il y ait du respect de la dignité des gens, et puis et de dire aussi que une société a besoin de nous. Voilà. Ouais. Et je crois que honnêtement, je suis partie chez le serrurier, le type me regarde et il me dit c'est bien vous, salamette. Et ça signifie que dans leur tête, vous ne pouvez pas faire de la politique si vous n'êtes pas corrompu. Ouais. Ah ben, j'ai dit, je peux être le cas d'exception. Mais en même temps, il faut attendre que tout soit prouvé. Voilà.
Ouais.
Parce que, bon, les luttes idéologiques et en même temps... les luttes de clans, franchement, qui servent pas à grand chose.
Ouais.
Alors bon, voilà, si on se met d'accord, c'est un contrat à mener. Bah, avec les syndicats, j'ai fait une charte d'éthique qu'ils ont signée. Les gens, ça n'a pas été apprécié à sa juste valeur, malheureusement. Hein. Il y a peut-être qu'un journal dont la photo est sortie. Comment dirais-je? Il y a une nécessité d'un contre-pouvoir. C'est fondamental. Autant j'étais en désaccord avec les syndicats, autant je considère comme étant nécessaire. Parce que il y a un danger, quand vous êtes à un poste de responsabilité, le danger, c'est de vous croire comme étant le détenteur de la vérité. Or, la vérité a besoin d'être confrontée à d'autres vérités qui sont plurielles.
Bien sûr.
Voilà. Et dans cette démarche-là, et dans la démarche aussi, je veux dire, à mon sens, d'humilité, elle est fondamentale. C'est-à-dire où vous considérez que chacun apporte quelque chose. Alors, ça va de... Ben, je ne sais pas. Ça va de... Oui. De quelqu'un qui a un poste de secrétariat jusqu'à celui qui occupe qui a le titre de professeur. Et cette complémentarité, non pas cette égalité, mais cette complémentarité entre les uns et les autres, c'est ça qui peut faire naître non seulement de la confiance, mais du respect, et de considérer que, bon voilà, on construit ensemble. On ne le fait jamais seul.
Oui.
C'est vrai que je me suis beaucoup sacrifiée, mais très honnêtement, vous le faites parce que vous savez qu'il y en a d'autres qui sont avec vous.
J'ai oublié effectivement d'aborder la question recherche. Vous avez produit, vous avez publié. Est-ce que c'est faux si je résume votre travail à la sociologie de l'éducation ?
Non, pas que ça.
Pas que ça.
Non, pas que ça. En fait, j'ai commencé effectivement mes travaux en mettant l'école, la formation, le système éducatif au centre de mes préoccupations. Oui. Et j'étais dans une approche vraiment macro, dans une approche, l'école de la reproduction, c'était notre modèle, c'était notre maître, c'était Bourdieu, Passeron. Et petit à petit, après avoir démarré mes enquêtes de terrain, après avoir confirmé, oui, que c'est les petites gens qui se retrouvaient, par exemple, dans l'enseignement technique, jamais vous trouverez un fils d'avocat ou une fille de médecin dans l'enseignement technique, vous le trouvez ailleurs et tout. Mais quand vous avez dit ça, qu'est-ce que vous dites ? Alors, disons l'insatisfaction par rapport à la démarche, cette démarche un peu macro, m'est venue et je pense que c'était un courant d'ensemble dans toutes les sciences sociales où les explications, générales, avait plus court. Alors, finalement, le recours à l'acteur social, c'est-à-dire de revenir, finalement, aux études qualitatives et en prenant l'acteur comme étant au centre de vos préoccupations, de savoir mais qu'est-ce que cet acteur fait de ce qu'il trouve et de ce qu'on lui propose. Alors, donc, c'est là où j'ai beaucoup travaillé avec les lycéens. J'ai travaillé avec les jeunes, j'ai travaillé avec les femmes entrepreneurs également, et qui à chaque fois, et quelle que soit la catégorie, vous renvoie une richesse et qui vous permet justement de construire souvent ex post vos hypothèses de travail, et non pas par avance. Donc partir, non pas frais, mais partir sans uniquement avec des grandes lignes. Mais pas avec le terrain comme prétexte à la justification ou la validation de quelque chose que vous savez déjà. Il y en a beaucoup qui le font. Ils sont dans une situation de confort. Donc quand ils viennent parler de l'école, bon, c'est les grands agrégats. Là aussi, on ne prend pas de risque. On reprend les grandes théories. Mais lorsque vous pénétrez à l'intérieur de la boîte noire et lorsque vous faites des dizaines et dizaines d'heures d'écoute, même des enfants. J'ai fait des workshops même avec des enfants de 10 ans. Là aussi, l'intérêt, c'est toujours la posture, vous êtes en découverte permanente de fabrication des données, bien sûr, et dans lequel, par exemple, un enfant, lorsque vous parlez par rapport à la violence, on vous frappe, etc., il considère que son père, sa mère le frappe, c'est normal. Mais pas l'enseignant. Mais une attitude de non-acceptation par rapport aux méthodes utilisées par certains enseignants, mais que la même méthode est totalement, considérée comme étant légitime par lui parental. La place qu'occupe la famille, y compris, j'ai dit dans... Quand elle use de la violence, entre guillemets, vis-à-vis des enfants, il dit c'est pour nous remettre sur la bonne voie. Alors, passer de l'institution, de la structure aux acteurs, a été, en fait, dans mon itinéraire de recherche, un élément fort. Et la seconde, c'est de passer des références... essentiellement francophone, à des références anglophones. Donc la découverte des écrits aussi bien des Anglais que des Américains et aussi des Africains m'a enrichi la perspective et m'a sorti d'une sorte de fatalité. Voilà. Ouais. Un système où finalement vous vous en sortez pas quand vous l'analysez. On sait qu'est-ce que ça va produire, donc à la limite c'est même pas la peine d'aller faire des enquêtes. Donc partir donc de la société, des frémissements de la société, de ce que veut la société au travers de ses acteurs. Voilà, ça a été mon agermato à moi.
Sur le terrain, comment vous faites la recherche? Vous avez un carnet, vous avez un enregistreur, vous retenez tout dans votre tête. Comment vous menez vos enquêtes?
Enregistrement et prise de notes.
Oui.
Je ne peux pas me départir du stylo de la feuille.
Vous lisez bien en permanence et vous notez au fur et à mesure.
Oui. Alors, ce que je note souvent, je fais l'enregistrement, mais ce que je note, c'est en fait ce que me suggère, quand il est en train de parler, ça me suggère des réponses, des analyses, et souvent des fils conducteurs de papier me sont venus comme ça, en écoutant, mais il faut que immédiatement je puisse le noter, parce qu'après vous perdez le fil.
Bien sûr.
Voilà. Et sinon, souvent c'est sur le terrain même. Mais sur le terrain, c'est divers. On a été allé dans des immeubles, j'ai pris des rendez-vous avec des femmes entrepreneurs chez elles. Et c'est cette posture de découverte que vous êtes tout le temps qui fait que, d'abord, ce n'est pas un métier anodin, et puis surtout, ce n'est pas un métier routinier.
Oui, ça c'est l'avantage, oui. le privilège.
Exactement.
Vous avez vos carnets de notes? Vous les classez, prenez soin de vos carnets de notes?
Ah ben ils sont... mes carnets, alors ça va. Depuis mes carnets de recherche, mes carnets de notes quand je suis en réunion, mes carnets de notes quand je suis en déplacement, quand j'étais ministre. Vraiment, quand je lis au fur et à mesure... je vois un peu parfois des préoccupations qui m'ont totalement échappé. Et que je retrouve quand je prends immédiatement note suite à des interventions, suite à un débat, voilà, une idée que j'avais pas, auquel je n'y pensais pas du tout, mais qui m'est totalement suggérée. Alors c'est pour ça que je considère en fait que la recherche, ce qui est intéressant dans la recherche, c'est la mise à contribution de l'intelligence collective de l'équipe.
Oui.
La recherche en isolé, à mon sens, on a terminé quand on a terminé sa thèse. Mais qu'après, c'est la joie de partager, de réfléchir à voix haute. Réfléchir à voix haute. Elle est essentielle. Et moi, je leur dis très souvent que, on m'attribue une qualité de pouvoir tirer des fils conducteurs chaque fois qu'on assiste à une réunion. Et moi, je dis, attendez, le fil conducteur, c'est vous qui me le donnez. Moi, disons, j'ai un peu l'avantage de le formaliser, de l'intégrer dans un système d'interprétation que j'ai. Ça forge en vous une qualité importante.
Est-ce que Madame la Ministre consultait les carnets de notes de la chercheuse?
Pas les carnets de notes de la chercheuse, mais surtout ses lectures. J'ai pas arrêté de lire parce que je suis tout le temps, très souvent, dans des situations de doute. Voilà. Et donc, j'ai toujours besoin de tester aussi mes idées. Je fais des propositions, donc je ne suis pas dans la certitude du tout. Du tout.
À moins que j'ai oublié quelque chose.
Non.
Je crois que j'ai fini. Je vous remercie encore, vraiment, sincèrement.
Merci à vous.
Pour tout.
Merci.
Merci. Oh,